s'en aller pêcher au Levant, chantons dans le vent. Car là-bas, dans les mers lointaines, on sera de grands capitaines.
Oh, oh. Quand du Cap Horn on approchera, hurra les gars, hurra.
Du rhum, une femme et de la bière, nom de Dieu, ce soir dans le rendez-vous sur France Culture, il sera question d'Ouessant, du Cap Horn, d'écrivain voyageur, de romancière au long cours et même de haute montagne, avec Isabelle Autissier qui signe sous d'un seul roman Robinsonnade ou le naufrage de deux trentenaires dans les mers du Sud pour un apprentissage de la solitude, Benoît Lagan.
Et avec son nouveau roman Haletant, Isabelle Autissier plonge à nouveau son roman entre Patagonie et Cap Horn afin de développer quelques idées fortes telles que passer de la société du tout à celle du rien, faire face à une nature hostile, être soudain seul.
19h35, un plateau Robinson avec Jean-Luc Coitelem qui publie Fortune de mer, un polar métaphysique sur l'île d'Ouessant, pour celui qui se considère plus comme un romancier qui voyage que comme un voyageur qui écrit des romans ou des récits, Émilie Chaudet.
Quand le retour chez soi coïncide avec un retour en soi, retour sur l'œuvre d'un écrivain et grand reporter qui associe volontiers l'inertie au mensonge.
Mais d'abord c'est l'actualité culturelle, le journal de la culture de Zoé Sfès qui s'ouvre bien sûr sur le son du jour. Bonsoir Zoé Sfès.
Bonsoir Laurent, bonsoir à tous.
Un son musical pour ce 8 mai.
Oui, tout à fait, il date un peu, certains s'en rappellent sans doute, il a peut-être bercé leur enfance, il s'agit de la bande originale du film d'Yves Robert, La gloire de mon père, adapté de Marcel Pagnol. C'est une habanera qui a été composée par l'un des maîtres de la musique de film, Vladimir Cosma, qui a aussi signé celle du Château de ma mère. Il avait dit qu'il voulait éviter les écueils de la musique provençale et de la musique enfantine, il a donc fait de la musique espagnole, mais ce sont les grillons qui font leur rythme, c'est ça toute la poésie. Alors nous fêtons cette année les 120 ans de la naissance de Marcel Pagnol et samedi ce sera le point d'orgue d'une année de célébration avec Vladimir Cosma qui donnera un grand concert justement de ses musiques de film à Aubagne, ville où a vécu Marcel Pagnol, concert où il racontera aussi quelques souvenirs avec Marcel Pagnol qu'il avait rencontré à la toute fin de sa vie.
Merci Zoé, on se retrouve lundi pour la poursuite de ce journal de la culture, mais tout de suite, nous sommes vendredi et nous poursuivons avec le supplément week-end. Bonsoir Benoît Lagan.
Bonsoir Laurent, bonsoir à tous.
Et bien pour commencer, votre séquence du téléspectateur hebdomadaire.
Et bien dans l'actualité des séries cette semaine, c'est la diffusion à partir de ce soir sur OCS, les chaînes d'Orange, de la série Transparent, une série deux fois récompensée aux Golden Globes et présentée en avant-première en France au festival Sériemania, une série produite et diffusée sur le site de vidéo à la demande d'Amazon.
So I have something to tell you.
Oh my God. I have to tell him.
No.
Yes.
Allie's crazy.
Tell me what?
Dad is a woman.
Are you saying that you're going to start dressing up like a lady all the time?
No. My whole life I've been dressing up like a man. This is me.
Alors de quoi est-il question ?
Eh bien dans cette série écrite par Jill Soloway qui a travaillé par le passé sur Six Feet Under, une série centrée sur une famille de croque-morts, mais aussi sur United States of Tara, une comédie autour d'une mère de famille qui souffre d'un trouble dissociatif de l'identité. Eh bien dans Transparent, Jill Soloway raconte cette fois-ci l'histoire d'une famille qui doit apprendre à gérer une importante nouvelle. Le père de famille, 60 ans, professeur d'université à la retraite, annonce à ses trois enfants adultes et à son ex-femme que désormais il veut être en accord avec lui-même et donc être une femme, un parent. Un transparent.
Et alors, qui avez-vous contacté pour en parler cette fois ?
Eh bien, j'ai téléphoné à Iris Bray, universitaire et journaliste qui enseigne le cinéma et la littérature sur le campus français de la New York University à Paris. Elle nous explique en deux mots en quoi Transparent est la première série familiale américaine postmoderne.
Ce qui est intéressant dans cette série familiale, c'est qu'on a donc un couple de parents en crise, ce qui est souvent le cas, et puis des enfants qui réagissent à cette crise. En deux mots, c'est qu'un père annonce à ses enfants qu'il est transgenre. Donc on détruit cette figure du patriarche, et en fait, à travers la destruction de cette figure-là, les trois enfants remettent en question leur propre sexualité. Donc on n'est pas seulement sur le rapport sexuel entre les parents ou des parents, ou le rapport avec leur sexualité, on est aussi sur ce que ça veut dire en fait en tant qu'enfant, de comment est-ce que nous on se construit face à la sexualité de nos parents. Et ça, je trouve que c'est rarement abordé, parce que là, les enfants sont adultes, donc ils sont déjà construits, et en même temps, de voir cette perception du patriarche changer, d'avoir un nouveau rôle dans cette famille-là, permet en fait de voir comment ces enfants vont évoluer eux-mêmes par rapport à leur sexualité, une fois que celle des parents, finalement, n'est plus mythifiée. Ce qui, moi, m'a intéressé dans cette série, c'est que ces catégories sexuelles dans lesquelles on a appris à vivre, c'est-à-dire hétéro ou homo, maman ou putain, etc., ici, elles sont complètement dissipées pour en fait regarder une sexualité féminine et masculine sans ces repères que nous, on a appris petits. Et Jill Soloway, donc la showrunneuse, permet de donner une nouvelle vision et même une nouvelle façon d'approcher la famille et ce que pourrait être la famille au XXIe siècle.
Et qu'est-ce que l'on dit, justement, la créatrice de la série ?
Eh bien, Jill Soloway explique à Télérama « Nous vivons dans un monde où tout est fait pour plaire à l'homme blanc hétéro. C'est lui qui décide de ce que définit une femme ou un homosexuel. Dans mon travail, j'essaye de renverser ses a priori. Et du coup, la série Transparent retourne le rôle traditionnellement véhiculé par le père à la télé américaine. Explication. »
Ils inventent un nouveau rôle pour son personnage, c'est-à-dire qu'au lieu d'être appelé papa, il s'appelle Mopa, donc la contraction de mother and papa. Et à travers ce nouveau langage, en fait, on crée une nouvelle figure de ce que cette personne va être dans la famille. C'est-à-dire qu'elle ne va plus incarner l'autorité paternelle, le nom du père lacanien, mais va justement proposer une nouvelle forme de parentalité qui n'est plus celle de papa ou maman. C'est quelque chose de nouveau. Et ce nouveau mot que les enfants inventent pour définir sa place, je trouve ça extrêmement poétique, mais ça veut dire aussi beaucoup de choses politiquement. C'est-à-dire qu'on peut essayer d'imaginer de nouvelles formes de famille à la télé et ne plus être forcément dans voilà, toutes ces séries familiales qu'on a vues avec un schéma extrêmement simplifié puis stéréotypé. Là, on est dans une nouvelle configuration.
Alors, pour vous faire une opinion, notez que la série Transparente avec l'excellente Jeffrey Tambor dans le rôle principal est diffusée à partir de ce soir sur OCS City. Une programmation forte à propos à deux jours de la fête des mères.
Et l'on poursuit ce supplément, Benoît, avec votre brève revue de presse de l'actualité culture et média de la semaine. Mardi ?
Eh bien, mardi, c'était l'après-Crémisy dans les pages saumon du quotidien Le Figaro. Mardi dernier, le journaliste Alexandre Debouté revenait sur la nouvelle réorganisation qui se prépare au sein de la maison d'édition Gallimard Flammarion. Le 1er mai dernier, dans Livre Hebdo, Teresa Crémisy annonçait son départ de Flammarion, mais restera toutefois directrice de collection. Elle devrait être remplacée par l'actuel DG de Flammarion, Gilles Aéry. D'autres mouvements sont donc à prévoir. Début juin, lors d'une assemblée générale, Antoine Gallimard devrait annoncer ce qui permettra d'achever le rapprochement des Gallimard avec Flammarion qu'il avait racheté en 2012.
Mercredi, c'était Grégory Le Frenchy.
Oui, le quotidien Le Parisien aujourd'hui en France interviewait Grégory Levasseur, le réalisateur du film américain Pyramide, un film d'horreur sur une équipe d'archéologues coincés dans une pyramide et confrontés à une force maléfique. L'occasion pour le réalisateur d'expliquer que c'est justement pour pouvoir assouvir sa passion des films d'horreur qu'il est parti s'installer à Hollywood. Grégory Levasseur explique, je le cite, « Il n'y a que là-bas que l'on nous propose de faire des films parce que notamment le financement se fait dans notre pays à partir du préachat par la télévision et que les films interdits aux moins de 16 ou de 12 ans ne passent pas aux heures de grandes écoutes. Aux États-Unis, les films sont financés par les studios, il y a donc moins de contraintes. » Fin de citation.
Et jeudi, c'était Lucie et Comédie.
Oui, au lendemain de l'annonce par le CNC des traditionnels chiffres annuels du cinéma en France, Alain Beuve-Méry, en page Média et Pixel du quotidien Le Monde, rapportait en détail les bons chiffres de l'année 2014, où l'on apprend dans ce compte-rendu que la France reste le premier marché européen en termes de fréquentation, que le retour à une TVA 5,5 sur les entrées de cinéma aurait eu un effet positif sur l'année 2014. Et on apprend enfin que le trio des films qui ont fait le plus d'entrées en France sont deux comédies et un blockbuster bessonien. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu et leurs 12 millions d'entrées, les 5 millions de fans de Danny Boone et de son super chondriac. Et enfin en troisième position, Lucie de Luc Besson.
C'est comme si tout ce qu'il y a d'humain en moi disparaissait.
Et aujourd'hui ?
Eh bien aujourd'hui, rien de particulier, c'est férié. Donc je vous laisse profiter de ce week-end prolongé pour podcaster et réécouter ce supplément week-end du Journal de la Culture sur le site de France Culture, où il sera disponible pendant 1000 jours.
19-20, le rendez-vous, c'est sur France Culture.
Plateau Robinson avec vous, Isabelle Autissier, écrivaine, navigatrice, animatrice radio à vos heures et même conteuse. Et puis en 1991, bien sûr, première femme à avoir accompli un tour du monde à la voile en compétition. Vous avez d'abord écrit plusieurs récits sur vos expéditions en mer. Et puis depuis le milieu des années 2000, vous signez des essais et des romans. Le dernier, Soudain Seul, vient de paraître aux éditions Stock. L'histoire en deux mots, c'est celle de deux alpinistes trentenaires, Louise et Ludovic, qui décident de faire un tour du monde entre la Patagonie et le Cap Horn. Les deux aventuriers décident d'accoster sur une île protégée, mais l'expédition vire au drame. Les deux trentenaires se retrouvent soudain seuls sur cette île sans pouvoir en repartir. Vous placez d'emblée votre roman dans une géographie que vous connaissez bien, hein, les mers du Sud, des îles et des montagnes que vous avez déjà visitées. Qu'est-ce qui vous guide là-bas alors même que vous aviez fait naufrage dans cette région ?
D'abord, c'est la beauté. Moi, je m'en souviens même plus que j'ai fait naufrage là-bas. D'ailleurs, finalement, je suis là.
Désolé de vous le rappeler.
Non, mais finalement, je suis là, donc c'est que tout s'est bien fini. Non, c'est une beauté, c'est une intensité, c'est une force de ces mers et de ces terres, d'ailleurs. Alors, il y en a pas beaucoup. Il y a surtout beaucoup de mers, qui fait que le rapport de l'homme avec cette nature est forcément un rapport particulier. Alors, il nous fait rêver, nous, d'ici, parce que, voilà, on imagine les marins du Cap Horn, on imagine les Indiens, on imagine les gauchos en Patagonie, etc. Mais le fait est que la force de ces paysages oblige, induit un rapport extrêmement structuré, extrêmement puissant entre l'homme et la nature. C'est ça qui m'intéresse.
Jean-Luc Cotelem, vous connaissez ces régions ?
Oui, je les connais un petit peu. J'ai navigué par là, moins loin et moins vite que Isabelle, mais j'ai eu la chance effectivement d'aller au Cap Horn et aller jusqu'au pôle sud, enfin jusqu'à la péninsule Antarctique en bateau.
Et vous partagez le même sentiment qu'Isabelle Autissier ?
Oui, et j'ajouterais ce qu'elle avait développé précédemment, c'est-à-dire que c'est aussi un formidable territoire romanesque, c'est-à-dire que là, les personnages, enfin, vont trouver un théâtre à leur convenance, un théâtre finalement intérieur aussi, où toutes les forces qu'ils ont en eux vont trouver leur place.
Vous dites, Isabelle Denotissier, que naviguer dans les mers du Sud, cela demande une concentration extrême, c'est-à-dire ?
C'est-à-dire que c'est pas facile, hein. Il fait pas beau, il y a des grosses vagues, il y a de la glace, il y a du brouillard, et enfin tout ce qu'on veut. Ce qui fait que le marin, et s'il veut que ça se passe bien, est obligé d'être concentré sur ce qui se passe, sur les éléments, sur son bateau, sur son équipage, mais être, ce que j'appelle être dedans. Et moi, je fais un peu le lien entre cette façon qu'ont les marins, dans des navigations difficiles, d'être dedans, avec la façon dont les peuples premiers, et en particulier, par exemple, les Indiens du Cap Horn, étaient dedans par rapport à leur nature. Et d'ailleurs, c'est ce qui leur permettait de parler avec les plantes et les animaux, parce que ils étaient au même niveau. Plus tard, l'homme se situera dehors, ou d'autres sociétés se situeront dehors. Et c'est peut-être pour ça que les marins ont cette une proximité certainement avec la nature qui est différente, et peut-être une empathie plus forte aussi pour les peuples qui étaient là-bas avant.
Oui, c'est vrai que dans les récits des premiers explorateurs, dans ces régions-là, j'ai encore des images de capitaines ou d'officiers voyant du haut du bastingage ces petites embarcations toutes frêles à l'intérieur desquelles il y a un couple avec un enfant recouvert de peau de bête. Et il faut surtout pas les sortir de ça, parce qu'on sent bien que s'ils les sortent de leur milieu, ils les arrachent finalement une sorte de cosmos maritime, enfin de planète maritime. Et c'est très émouvant.
Benoît Lagan.
Vous situez votre roman sur l'île de Stromness, c'est ça ?
Oui, alors c'est une île qui n'existe pas, mais beaucoup reconnaîtront quand même quelque part un petit coin que moi j'appellerais un coin de paradis, mais pour eux ça ne l'est pas.
Qu'est-ce que ça vous permettait sur le plan littéraire de situer justement le roman dans cette zone-là, donc que vous avez inventée, mais qui est liée quand même à une région réelle ?
Alors ce qui était important pour moi, c'était justement d'explorer, de continuer un peu, puisque je l'avais fait un peu au cours des récits précédents, ce rapport de l'homme et de la nature, et aussi comment, de notre point de vue, de société européenne, etc., ce rapport s'est modifié au point qu'on a du mal à comprendre maintenant la nature et ses mécanismes. Et pour ça, il fallait effectivement que la nature s'impose, et même d'une manière difficile et douloureuse, parce que sinon ça marche pas. S'ils avaient été dans une île du Pacifique avec des noix de coco partout et des fleurs et tout ce qui s'ensuit, finalement, ils ne seraient pas allés aussi loin dans cette exploration d'eux-mêmes et dans ce rapport à eux-mêmes, parce qu'il n'y aurait pas eu ces contraintes. En fait, des contraintes vont naître beaucoup de choses.
Pour votre précédent roman, L'Amant de Patagonie, un roman historique, vous vous étiez beaucoup documenté. Et pour écrire Sous d'un seul, de quel ordre était cette documentation, Isabelle Autissier ?
Alors, finalement, beaucoup moins, parce qu'il n'y avait pas ce côté, effectivement, ethnographique auquel je tenais, donc qui avait fait que je m'étais documenté beaucoup, pour ne pas dire de bêtises sur ces Indiens. Là, on est, de manière contemporaine, sur des bateaux que je connais bien ou que j'imagine bien, un bateau de croisière d'une quinzaine de mètres, j'en ai un en ce moment, donc je vois bien à quoi ça ressemble. Ouais. Ces îles-là, je les ai fréquentées beaucoup personnellement, ce genre d'îles, je suis allée beaucoup en Géorgie du Sud, en Patagonie, donc je vois bien le territoire, ce qu'on y trouve, ce qu'on n'y trouve pas. Alors je suis revenue un peu, j'ai relu un peu des vieux textes de naufrage quand même, parce que je trouve que c'est intéressant, Jean-Luc en parlait d'ailleurs, qu'on est quand même dans une continuité historique, ouais. C'est-à-dire que l'image qu'on se fait aujourd'hui du naufrage dans une île déserte difficile, il n'est pas très différent au fond de celui que se faisaient les gens du XVIIe et du XVIIIe.
Vous avez des souvenirs de lecture précis de ce que vous avez pu lire?
Oui, ah bah, il y en a beaucoup. Il y a un livre que moi, de ce point de vue-là, je trouve cool, qui s'appelle « Trois naufrages pour trois îles » et qui raconte trois naufrages réels, d'ailleurs, de gens sur des îles australes, donc qui sont plutôt Kerguelen et Crozet. Et comment, effectivement, c'est intéressant parce que dans ces naufrages, il y a des marins et des non-marins, des voyageurs. Et que les marins s'adaptent beaucoup plus vite. Pour les voyageurs, c'est souvent dramatique et souvent ça se termine mal parce qu'ils sont complètement démunis. Ce sont des gens des villes du 18e, ils ont déjà perdu ce contact avec la nature.
Jean-Luc Coitalem, ouais.
Oui, alors moi j'ai peu d'expérience de naufrage et de naufragés volontaires, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui décident aussi d'eux-mêmes d'aller vivre sur des îles. Et on parlait de lecture tout à l'heure, Tom Neal par exemple, qui est un écrivain qui a écrit Robinson des mers du Sud, c'est quelqu'un qui a décidé d'aller vivre tout seul sur l'atoll de Suvarov. Oui. Et il est resté, je crois, 16 ans dessus. Et il raconte au quotidien cette vie dans les éléments et avec ce système D permanent pour arriver à s'en sortir. Je trouve ça très fascinant.
Benoît.
Alors, vous décrivez dans votre livre l'enfance de Louise, votre personnage féminin, une enfance sans histoire, durant laquelle elle souffrait, écrivez-vous, c'est page 31, de la transparence de son être, et vous ajoutez « Petite, elle se réfugiait dans la lecture. Elle passait des heures à s'imaginer une vie palpitante et des aventures haletantes. Elle devenait exploratrice, combattante de la liberté, musicienne ou sportive d'exception. Elle se voyait dans les caves de la résistance, en haute mer, au sein du désert. Cette double vie l'apaisait, la rassurait sur sa capacité à se faire un jour remarquée, elle s'installait sur son lit, fermait les yeux et s'abandonnait à son récit intérieur. Alors je sais bien que dans Sous d'un seul, nous sommes dans le roman, mais y a-t-il un parallèle à faire avec votre propre enfance, Isabelle?
Oui, un peu dans la lecture, ça c'est sûr. Moi j'étais une petite fille à l'époque bénie où la télévision existait à peine, où les enfants lisaient beaucoup. Et effectivement, quand on lit beaucoup, la lecture est tout à fait propice aux rêves. Et après, voilà, quand on le sait tous, on referme un livre, on va continuer à y penser et on va forcément se projeter. Donc moi, j'ai fait comme tout le monde. J'ai lu beaucoup de récits de marins, d'aventures, mais aussi des Jules Verne et tout ce qui pouvait traîner dans la bibliothèque. Et bien sûr, quand j'étais petite, je m'imaginais aussi bien avec les tigres qu'en haute mer, que partout.
Vous lisiez des récits d'aventure, donc
quand
vous
étiez... J'ai lu beaucoup de récits d'aventure quand j'étais petite. Et effectivement, beaucoup de récits de mer, ce qui m'a certainement construit déjà une envie de plus en plus grande d'aller en mer.
Vers la fin du livre, hein, page 244, vous citez 1984 de George Orwell. C'est une lecture qui va permettre à votre héroïne de prendre conscience de l'influence que peut avoir la littérature sur sa propre vie. Comment on doit comprendre cette citation, Isabelle Autissier ?
Alors, c'est un peu, en fait, donc mon héroïne va terminer dans une île où effectivement Orwell va écrire 1984, dans des conditions un peu douloureuses pour lui d'ailleurs. Et dans ce roman, il y a une reconstruction de l'histoire qui est faite à partir des textes en fond. Hein, on maquille l'histoire. C'était évidemment inspiré du stalinisme. On maquille l'histoire au fur et à mesure pour que les gens obéissent finalement à un destin qu'on leur construit au fur et à mesure. Et je pense que oui, de ce point de vue-là, les textes qui nous nourrissent, qui nous entourent, nous influencent bien sûr. En l'occurrence, ça va être une délivrance parce que le texte, ça peut être tout. Ça peut être un asservissement et ça peut être une délivrance. En l'occurrence, les mots qu'elle va lire, les paroles qu'elle va lire, vont résonner en elle et à un moment donné, lui ouvrir la clé de ce qui est un peu flou dans sa pensée, des choses qui sont en germination. Et tout d'un coup, et ça aussi, je pense qu'on l'a tous vécu, on lit une phrase et on se dit, voilà, c'est finalement, c'est exactement ça que je pense. Mais quelqu'un a réussi à le formuler. Et voilà, et ça va me permettre de condenser ma pensée et après d'aller plus loin.
Il y a eu des auteurs déterminants dans votre parcours ?
Il y a eu des gens qui...
Ou des figures, oui.
Déterminants, je ne sais pas. Je faisais tout à l'heure allusion évidemment aux écrivains maritimes, ouais. Aux écrivains de mer, d'une manière générale, parce que je ne peux pas dire qu'il y en ait qui m'aient plus influencé. Peut-être des gens qui me ressemblaient un peu plus, qui étaient de mon époque, qui étaient des gens par exemple comme Gérard Janisson et Jérôme Poncet, qui étaient partis pendant 5 ans autour du monde sur un tout petit bateau et qui avaient... Janisson avait une très belle plume, donc il vous emmenait dans ses histoires et il vous les rendait possibles. Et au fond, moi, c'est ce que j'avais trouvé dans ces romans, et d'autres aussi, c'est que rien n'était impossible, que ces gens vivaient des aventures, qu'elles soient rêvées ou qu'elles soient réelles d'ailleurs, qui vous ouvraient les portes, qui vous ouvraient les portes du monde, et finalement, après, il n'y avait qu'à y aller et pousser soi aussi les portes.
Benoît, vos personnages Ludovic et Louise ont 30 ans. Lui est un pur produit de ce que l'on appelle la génération Y, c'est ce que vous écrivez. Elle semble moins ancrée, elle, dans son temps, un côté classique, presque vieillot. En les cernant ainsi, en les confrontant en danger, qu'est-ce que vous aviez envie de dire en creux sur cette génération, Isabelle Autissier ?
D'abord, je voulais pas que ce soit des personnages uniformes. Donc j'avais envie qu'ils aient vraiment... qu'il y ait même déjà un petit antagonisme un peu sous-jacent qui va se développer, évidemment, au moment où ils vont se retrouver naufragés. Et puis, c'est vrai, malgré tout, même si Louise, elle est alpiniste, donc elle fréquente la montagne, donc elle sera un petit peu mieux armée pour faire face à tout ça, une génération qui est quand même tirée de plus en plus vers le virtuel... avec sûrement beaucoup de beaux côtés, mais avec ce côté que moi, personnellement, je trouve terrible, que beaucoup de gens, de jeunes gens, ont une coupure totale, qui paraît presque définitive, avec tout ce qui est de l'ordre de la nature. Que ce soit les choses les plus simples, comme faire pousser les pommes de terre, ou des choses évidemment plus compliquées. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a tout un tas de filtres qui sont ceux de l'internet, de la télévision, les gens vivent dans des villes pour l'essentiel. Ils ne vont plus dans la nature, ou ils vont dans des natures qui sont programmées, organisées, pacifiées pour que ça se passe bien, parce que sinon on a peur qu'il y ait des procès. Donc on emmène les gens en Antarctique, mais on les emmène dans des grands paquebots bien confortables, et puis on les pose à terre sur la glace, mais on les encadre pour qu'ils risquent pas de tomber et qu'ils se fassent pas mal. Donc ils vont à un moment donné être un peu peut-être dans la nature, mais c'est une nature qui est complètement apprivoisée. Donc ils n'ont plus du tout ce sens qu'avaient seulement nos parents et nos grands-parents.
Chaque soir, Isabelle Autissier, depuis le début de la saison, on a demandé à nos invités de nous apporter un son qui les a marqués. Voici ce que vous avez choisi.
Armstrong vient de procéder à la dernière vérification du circuit télévisé.
Voilà.
L'image est à l'envers.
On demande à Armstrong
retournement
de
l'image.
La position de la caméra.
Voilà le pied d'Armstrong. Au centre et en bas de votre écran.
Le plus important maintenant, et la grande crainte que l'on avait ici à Houston, c'était que l'astronaute qui sort du LEM tombe.
Apparemment, la surface est d'un grain de sable très fin, dit Armstrong.
Voici le premier pas.
Identification de ce son, même si je pense que certains l'ont reconnu.
Oui, beaucoup de gens ont
reconnu. Et la raison de ce choix.
Voilà, le premier pas d'un homme sur la Lune. D'abord parce que je crois que moi, j'étais petite fille. Je l'ai vu à la télévision. Et j'étais quand même complètement estomaquée. Quoi. Je me souviens encore de l'ambiance de la famille autour de ce petit poste en noir et blanc, etc. Donc ça a été un moment fort. Et après, en y repensant, je trouve que ça illustre très bien, et ça poursuit un peu ce que je disais tout à l'heure. Au fond, on se sent dans nos sociétés la capacité de dompter entièrement. les éléments. Et c'est très symbolisé par l'homme sur la Lune, qui est quelque chose qui a fait rêver l'humanité pendant des siècles. Et puis voilà. Puis un jour, on le fait. On prend une fusée et hop, on y va et on marche sur la Lune. Et ça paraît non pas normal, mais dans le sens de l'histoire. Et on va dompter tous les éléments. Et un jour, on ira sur Mars. Et un jour, on fera je sais pas quoi. Et je pense que cet état d'esprit, évidemment, a faussé notre vision de la Terre et de la planète, et qu'on a complètement oublié qu'effectivement on était dedans. Et on s'est pensé comme étant non seulement les gens qui avaient en main les destinées de la planète, mais qui étaient capables d'en faire ce qu'ils en voulaient et que ça se ferait sans problème et sans conséquences. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a beaucoup de conséquences et qu'il va falloir commencer à se penser autrement. Et je crois que la période à venir et qui tourne autour de la conscience environnementale au sens large va être extrêmement intéressante, parce que on va être par la force des choses obligé de sortir de notre modèle de pensée et d'inventer autre chose. Sans doute pas de revenir au modèle polythéiste et à ce que pensaient les Indiens, qu'ils soient du Cap Horn ou d'ailleurs, mais on va être obligé d'inventer un nouveau rapport avec notre planète, parce que sinon ça va mal se terminer. Et ça, c'est je trouve que c'est passionnant, et c'est pour moi très bien illustré par ce moment de sorte de sommet, de peut-être de gloire absolue des hommes qui à un moment donné vont sur la Lune, et puis à partir de là, est-ce qu'il n'y a pas le rapport qui se détériore, quoi.
Benoît, alors avant d'être écrivaine et navigatrice, vous étiez ingénieur agronome, vous avez travaillé à l'IFREMER, l'Institut de Recherche pour l'Exploitation de la Mer. Qu'est-ce qui vous pousse au milieu des années 80 à prendre le large ?
Alors c'est une vieille idée, parce que quand je suis petite fille et que je fais du dériveur en bois en Bretagne, je rêve de partir sur les mers, je rêve de la mer, au sens large. Et donc je me dis, je ferai un métier qui fera que je serai au bord de la mer, et je ferai du bateau, et j'irai au Cap Horn, et voilà. Donc les choses se font pas toutes en même temps, hein. Il faut d'abord s'organiser un petit peu. Pour faire un métier au bord de la mer, il faut faire des études, etc. Et puis j'aime bien le métier que je fais, qui me passionne, que je fais pendant plus de 10 ans, 12 ans. J'embarque sur les bateaux de pêche, etc. Donc c'est très bien. Mais quand même, il y a la deuxième idée qui était un jour j'irai au Cap Horn. Donc ça, il faut bien le faire, hein, à un moment donné aussi. Et donc il y a une transition à un moment donné. Je le fais assez volontairement et je me dis ben voilà, maintenant il va y avoir des étapes pour y aller. Ça va pas se faire en 5 minutes, mais c'est la chose qu'il faut que je fasse.
Vous comprenez cela, Jean-Luc Cotelem, parce que vous, oui. Au départ, il y avait des études de lettres, ensuite un passage éclair dans l'édition, et puis ensuite les voyages, vous aussi.
Oui, mais moi, j'étais tombé un peu dans les voyages à cause de comme Obélix dans la marmite, parce que mon père était officier, et donc j'ai passé mon enfance en Polynésie, et ensuite mon adolescence à Madagascar. Donc, pour moi, voyager, c'était simplement revenir vers ce qui m'avait étalonné, si j'ose dire, spirituellement et au niveau de mes émotions. Donc, pour moi, les voyages n'ont finalement été, je sais pas si on fait de la psychanalyse à 3 € le kilo, mais pour moi, c'est revenir. Partir, c'est d'une certaine façon, c'est revenir. Et c'est vrai que les premières fois où je suis retourné en Polynésie, j'y suis retourné à plusieurs reprises. Pour moi, même si je ne suis pas polynésien, je me sentais chez moi, et même à Madagascar, je me sens chez moi. Comme si, je sais plus qui a dit, on est d'une enfance comme d'un pays. Oui, effectivement.
Isabelle Autissier?
Non, j'aime tout à fait ce que dit Jean-Luc, parce que je fais le parallèle. Moi, quand je monte sur un bateau, j'ai l'impression de rentrer à la maison. Parce que les gens me disent « vous avez peur », etc. Je dis « mais non, mais quand vous êtes chez vous à la maison, vous n'avez pas peur ». Ben voilà, Jean-Luc est chez lui dans le voyage, comme je suis chez moi, sur un bateau.
Pas forcément sur un bateau, parce que vous avez aussi fait des expéditions extrêmes, on va dire, en haute montagne, Isabelle Autissier.
Alors, moi, je ne suis pas allée, vraiment, je n'ai pas les capacités et le talent d'être vraiment une montagnarde. Je suis partie avec des alpinistes. Moi, je faisais des petites choses, eux en faisaient des grandes. Mais de toute façon, il y a des passerelles, la mer et la montagne, c'est quasiment pareil. C'est pas les mêmes techniques, mais les impressions, le pourquoi on est là, le comment on s'organise, le rapport qu'on a avec justement le milieu dans lequel on est, il est très très similaire.
Dernière question, Benoît.
Oui, alors, et depuis une petite dizaine d'années maintenant, vous montez également sur scène. Alors, il y a peut-être un pont aussi entre la mer, la montagne et la scène pour faire du compte. Alors, votre premier spectacle, c'est Une nuit, une mer. C'était en 2005. Il y aura eu l'Albatros. Il y a un nouveau spectacle actuellement. Quelle forme prennent ces spectacles et pourquoi vous avez choisi le compte pour monter sur scène, Isabelle Autissier?
Alors, au début, c'est un peu un hasard, j'avais pas prévu ça, mais je me suis, entre guillemets, laissé faire. Enfin, ça m'a amusé d'essayer, puis ça a bien marché, donc j'ai continué. D'abord parce que j'aime les mots, j'aime la parole, et j'aime la musique des mots. Et je trouve que, moi, j'ai adoré qu'on me raconte des histoires. J'avais la chance que ma grand-mère vivait à la maison et qu'on m'a beaucoup raconté d'histoires. Je sais que c'est fantastique et que la voix porte presque autant que l'histoire elle-même. Et je trouve ça important. Donc, ma façon de raconter, ma façon de ramener, ma façon de mettre ma petite pierre dans la société dans laquelle on vit tous, c'est au fond de ramener ce que les voyages m'ont appris, ce que j'y ai vu, ce que j'y ai ressenti, de le ramener pour le partager. Hein. C'est ça, mon métier, entre guillemets. Et je trouve que par la parole et par le conte, il y a à la fois, pour moi, une grande liberté de raconter finalement ce que je veux, comme le conteur emmène les gens là où il veut. Et en même temps, cette proximité avec les gens. Il n'y a rien de plus proche que quelqu'un qui vous parle, qui vous raconte une histoire. Et voilà, et j'espère que si ça allume deux, trois petites lumières, c'est parfait.
Vous aimez être sur scène ?
Oui, je m'y suis habituée. Au début, j'étais comme... Voilà, j'avais le trac vraiment beaucoup, etc. Et puis, maintenant, ça devient un vrai jeu. J'aime bien aussi cette liberté que j'ai avec le musicien, avec qui on est vraiment en connivence complètement. J'aime bien sentir, au début, je crois que c'était de la blague quand les gens disaient, mais on sent le public, etc. En fait, c'est vrai. Il y a des choses qui vous reviennent, qui vous renvoient. Il y a un vrai rapport qui s'établit. Je trouve que c'est des beaux moments de magie.
Le rendez-vous, la chronique.
La chronique du vendredi, c'est celle de Thomas Clerc qui met chaque vendredi donc une revue, un magazine à son programme et aujourd'hui, Détective.
Eh oui, Détective. Et c'était le mercredi parce que c'était le jour des enfants, mais c'est aussi celui de la parution de Détective. Et hélas, il y a en général un lien entre les deux événements, un lien de métonymie. Détective existe depuis 1928, hein, c'est un hebdomadaire mythique à ne pas mettre entre toutes les mains si on veut qu'elle reste propre. Pour la modique somme d'1,60€, il offre à son lectorat une belle image de la dégueulasserie humaine. Belle image, non, je me ravise à une sale image. Comme disait Georges Darien, je fais un sale métier, mais j'ai une excuse, je le fais salement. Détective, c'est beau comme du Céline qui serait sous-écrit, pourtant c'est littéraire, hein, puisque fondé par Gallimard Gaston, avec Kessel Joseph aux commandes. Tel un gangster qui multiplie les fausses identités, le nouveau détective s'est d'abord appelé Détective, puis Kipolis, avant de se faire interdire de publication dans les années 70, sous la pression des féministes. C'était l'époque des femmes nues en couverture. Détective, c'est d'abord une qualité de papier, vraiment un papier de pauvre qui pue le recyclage et se déchire aisément comme une lettre anonyme qu'on immerge au fond d'une cuvette. En quadrichromie, soit, mais c'est tellement blafard qu'on dirait quand même du noir et blanc. Le noir et blanc d'un ciel basé lourd qui pèse comme un couvercle sur la gueule des concernés. Car avoir son portrait dans Détective, c'est obligatoirement tutoyer Sophocle et Simenon, c'est être recherché par le malheur. Ce papier décidément me fascine, avec sa maigreur éthique, avec et sans H. 32 pages seulement. Mais comme dit mon marchand de journaux, c'est du lourd. Autrefois, jadis, le sadisme des titres pouvait encore déclencher des rires nietzschéens. La famille entière était sous la coupe d'un travesti. Cochonne le jour, chirurgienne la nuit. Ou bien pour vous Laurent, deux cadavres dans la maison d'Amandali. En outre, les magnifiques couvertures de DiMarco conféraient à ces histoires vraies un supplément de fiction à cause de leur style outré. Les temps sont durs, les dessins ont fait place à d'affreuses photos réalistiques. Les titres ont perdu leur poésie scabreuse. On trouve moins de transsexuels retrouvés dans un sac de sport. Ou des interpellations directes au public, comme celle de ce numéro 1701. Chloé, c'est notre petite fille à tous. Après tout, pas très différent de l'éditorial du Monde du 12 septembre 2001, nous sommes tous des Américains. Ne comptez pas sur moi pour vous livrer à un décortiquage sociologico-idéologique du nouveau détective.
Pourquoi ? C'est dommage.
Bah oui, mais il y a des analyses qui fleurissent sur Internet, et elles sont gratinées avec des échanges virulents, hein, qui mettent aux prises d'un côté des détracteurs qui sont supposément élitistes, et de l'autre côté des lecteurs censément provenir de la France d'en bas. Le tout dans une orthographe qui aurait subi 32 viols collectifs. Non, il faut lire détective sans parti pris, hein, se laisser happer par cette misère abjecte qui détonne avec nos lectures trop sereines, nos magazines mondains, nos quotidiens du soir ou de l'aube. Je sais bien que torturé pendant 96 heures, ou sur la piste du violeur Rasta, ont un impact journalistique et politique proche du P38, mais Détective a un mérite, il parle au restant de la presse avec l'incorrection d'un paria, avec l'accent poivré du prolétaire, hyper corrigé par des rédacteurs sans scrupules. Au premier degré, Détective nous rappelle par exemple la loi du crime et ses us et coutumes, la loi du milieu, hein, si on apprend par exemple que Georges Mallet, un détenu qui a été abattu au sortir de sa prison le 15 avril dernier, le jour de sa libération, après avoir purgé une peine de 18 ans. Détective nous apprend quand même quelque chose sur cette réalité sordide. Il patauge évidemment dans la métaphore menaçante. Deux coqs dans le poulailler, c'est un de trop. Il aime les juxtapositions. Ma compagne, mon bourreau. On ne sait pas si ce sont des pléonasmes ou des oxymores. Il est même prêt à basculer dans le fantastique avec un dossier sur l'homme centaure. Centaure, certes, détective ne l'est pas. Sans doute est-il à la presse, ce que le Front National est à la politique, avec ses appels si sympathiques au vivre ensemble. Il existe toutefois une littérature fascinée par le crime, mais je ne vois pas au nom de quoi je condamnerais détective, sans passer sous silence le fait que 50% de nos compatriotes lisent de mauvais polars anglo-saxons qui sont juste dilués sur 500 pages de plus. Détective a le mérite, des enquêtes courtes. Parfois la presse, c'est mieux que la littérature.
Merci Thomas, on se retrouve vendredi prochain. Ce sera Géo, je crois, que vous mettrez au programme.
Exact.
On a hâte.
Plateau Métamorphose avec vous, Jean-Luc Coitelem, romancier, journaliste, rédacteur en chef adjoint du magazine Géo. Vous publiez votre 22e roman, Fortune de mer, aux éditions Stock. Un roman qui a la particularité de se passer chez vous, en Bretagne, et plus particulièrement sur une île d'Ouessant, pluvieuse, nocturne la plupart du temps, sur les bords de l'Iroise, qui est une des mers les plus dangereuses d'Europe, à cause de ses nombreux récifs.
Je confirme.
Vous confirmez. C'est là qu'un apiculteur, un ancien journaliste, deux druides, un chanteur local à Médinette vont se retrouver et tourner autour d'une mystérieuse disparue, Lucia Parma. Est-ce que c'est un rapport avec Lucy Palmer du côté de Lynch?
Non.
Même inconscient?
Peut-être inconsciemment, quand même un petit peu, mais hein. Lucia Parma, pour moi, c'est la lumière. Parme, c'est évidemment cette part de luminosité dans un monde un peu obscur. Une île prise par la tempête, par les mois noirs, on appelle ça en Bretagne les misdus, les mois noirs. Et effectivement, cette jeune femme est comme une sorte de feu follet avant la nuit.
Journaliste espagnole, elle était venue en Bretagne pour un reportage qu'elle ne rendra donc jamais. D'abord une question sur ce cadre, sur ce retour à vos terres d'origine après un roman en Corée du Nord, au Cambodge, en Amérique du Sud. Qu'est-ce que vous avez retrouvé sur l'île d'Ouessant que vous ne retrouviez pas peut-être ailleurs?
Moi, j'ai toujours été fasciné par les îles, parce que je les voyais de Brest. Et puis, mes parents avaient une maison sur la presqu'île de Crozon. Et une presqu'île, c'est presque une île. Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai vécu en Polynésie, à Madagascar, qui sont aussi des îles. Et j'ai eu toujours un appétit pour les îles, évidemment, comme un espace clos, mais un espace où les choses, c'est un peu comme une respiration, où les choses se concentrent et puis s'élargissent. Et il me semblait, après avoir été 3 ou 4 fois à Ouessant, et notamment au début de l'hiver, De trouver une sorte de théâtre à la mesure de mes personnages qui vont avoir des comportements qui c'est le moins qu'on puisse dire, vont s'exacerber.
Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, comme à tous nos invités, on vous a demandé aussi de nous apporter un son qui vous a marqué. Et ce n'est pas un hasard. Voici ce que vous avez choisi.
Dérive dans les rouleaux, en fredonnant un air qui rappelle la douceur de tes mots. Une fortune de mer, tout au large de Concarneau, qui ne sait plus trop quoi faire pour que tu le remarques à nouveau.
C'est bizarre, cette chanson, elle a le titre de votre roman. Pour quelle raison avoir choisi cette chanson de Miossec, alors?
D'abord parce que j'aime beaucoup Miossec, j'aime beaucoup cette chanson, et elle a un côté maritime. J'entends la mer battre dans cette chanson avec le rythme des vagues contre une coque de bateau, contre une péninsule perdue. Et oui, cette chanson m'a accompagné. Au départ, elle ne devait pas donner le titre au livre, et puis finalement, elle l'a donné, puisque je sais bien que Fortune de mer, c'est un aléa de la navigation. Mais j'ai pris le mot, l'expression Fortune de mer, oui, comme une fortune qui arriverait par la mer. En l'occurrence, elle arrive par les airs, mais cette jeune femme, cette lumière... Et puis, Ouessant, bien sûr, mais pour moi, ça n'est pas vraiment le vrai Ouessant. C'est une sorte de condensé des îles que je connais, des îles où j'ai parfois habité, vécu quelques temps. On parlait tout à l'heure d'une île dans les Gambiers, l'archipel des Gambiers aux Polynésies, où j'ai passé quelques temps. C'est une île presque déserte, il y avait un individu, un habitant. Et puis je suis allé aussi sur Quéménès, cette petite île où il y a deux... personnes qui vivent. Et j'aime beaucoup cette idée d'être coupé du monde et en même temps pleinement présent. Pour moi, l'île, il y a quelque chose de mystique, en fait. Je suis pas bouddhiste, mais pas polynésien non plus, donc décidément, je sais pas ce que je suis.
En tout cas, vous êtes passé de
choses là. Par soustraction.
Oui, on peut arriver à une.
Mais effectivement,
j'ai
l'impression qu'il pouvait se passer quelque chose. Et cette jeune femme donc, va attiser les convoitises à la fois du narrateur et puis aussi d'un étrange personnage qui s'appelle Vassili.
Alors, comme référence, il y a donc cette chanson de Miossec, mais une autre référence, on l'aperçoit dans les remerciements à la fin du texte. Vous citez un roman qui a été pris Goncourt en 1912, un roman un peu oublié, hein, Les filles de la pluie, d'André Savinion. Qu'est-ce que votre roman doit à ce texte-là? Qu'est-ce que vous y avez trouvé?
J'y ai trouvé le désir d'écrire, j'ai trouvé une sorte d'impulsion, j'y ai trouvé un peu comme un danseur qui invite l'autre à danser. J'ai trouvé ça, une sorte de main tendue.
Mais dans l'histoire qui est racontée, non ?
L'histoire est assez, ça se passe en 1910, ça se passe sur l'île d'Ouessant, ce sont des successions de petites scénettes. Et il y a une scénette qui m'a le plus plus effectivement, c'est l'histoire de ces Ouessantines qui voient arriver des troupes coloniales qui vont stationner sur l'île parce que à l'époque on craignait je ne sais quel conflit avec les Anglais et quelques jeunes femmes un peu plus délurées que les autres retrouvent la nuit cachées dans les grottes ces soldats coloniaux. Et ça, je crois que c'est ce qui m'a un petit peu déclenché le désir d'écrire. Mais je ne l'ai pas mis dans les remerciements, j'aurais pu le mettre, parce qu'il y a un livre que j'adore qui s'appelle « L'invention de Morel ». L'invention de Morel de Bio Casares, c'est un écrivain argentin. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire. Non. C'est l'histoire d'un naufragé, justement, qui arrive sur une île. Et sur cette île, il est seul, mais toutes les 12 heures, dans une bâtisse perdue sur un rocher, apparaissent des gens. Et en fait, il comprend que c'est un enregistrement. En 3D, une sorte de hologramme réactivé par les marées. Et dans ces personnages qui apparaissent toutes les 12 heures et qui disparaissent ensuite, il tombe amoureux d'une femme qui est un hologramme. Et il décide d'apprendre le texte, parce que ces gens parlent, et il décide d'apprendre le texte pour s'inclure dans le film et passer pour son amant. Et je trouve que c'est presque une métaphore de la vie. Il faut, à notre tour, apprendre à aimer et apprendre à donner la réplique aux autres et s'inclure dans ce film étrange au bout d'une péninsule, au fin fond d'une île.
Je vous vois sourire à ces souvenirs de lecture, Isabelle Autissier.
Ce que Jean-Luc dit très bien, cette façon de partir d'un rêve, mais de s'inclure dedans, c'est-à-dire de le rendre réel. Sans doute, ce personnage, il s'ennuie profondément tout seul sur son île, il se raconte une histoire et se raconter cette histoire lui fait prendre corps, en fait.
Émile Chaudet.
Vous aviez commencé à parler des lieux de vos voyages qui vous ont inspiré, donc ceux qui forment cette île d'Ouessant un peu fantasmée. On note dans votre roman une progression géographique très méthodique des personnages, un peu comme si vous aviez travaillé cette histoire à partir de notes d'un voyage précédent. Est-ce que ce sont les lieux qui guident d'abord votre fiction ?
Oui, là c'était à la fois les lieux et puis le temps, parce que le livre se développe sur 3 jours, samedi, dimanche, lundi, l'arrivée d'un avion et puis le départ de la navette Penarbed qui rejoint donc le Conquet ou Brest. Et pendant ces 3 jours, les personnages vont être un petit peu sur le cadastre de l'île, un peu comme des moustiques dans une toile d'araignée. Parce qu'il y a une araignée au milieu, et cette araignée, c'est Vassili.
Vassili, c'est le chanteur.
C'est un chanteur. Alors on m'a dit, désespéré. Ouais, c'est Miossec. J'ai dit, non, c'est pas Miossec, évidemment.
Un peu désespéré.
Un peu désespéré, avec une histoire d'amour ratée. Et il est hanté par son grand-père qui était un sous-marinier russe, qui aurait échoué là. Donc là, la référence à Savinion tout à l'heure, ouais. Je racontais. Et dont le sous-marin aurait coulé dans le passage du Poulpe. Et ce personnage, et là, il joue tout seul au piano dans son petit penty au toit d'ardoise et il voit arriver la journée du dimanche Lucia Parma.
Vous n'aimeriez pas passer sur scène pour être un conteur? J'ai l'impression,
j'aimerais
quand on vous écoute, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui pourrait arriver. Retour en arrière, parce qu'après ce passage dans l'édition que je citais tout à l'heure, vous êtes devenu reporter sur les traces de l'écrivain chilien Francisco Coloán. Qu'est-ce qui vous attirait chez lui? Plus précisément.
Moi, j'ai été à peu près sur les traces de tous les gens qui m'ont fasciné. Je suis allé sur les traces de Victor Segalen à Pékin. Je suis allé sur les traces de Francisco Coloán à Chiloé. Je suis allé évidemment sur les traces de Gauguin en Polynésie. Je ne sais pas ce qui me fascine, mais c'est comme Isabelle le disait tout à l'heure, il y a une sorte de maillage entre nos lectures et nos rêves. Et les gens qui nous font voyager, qui nous font rêver, qui nous donnent matière à écrire, on a envie d'aller les retrouver. Et je crois qu'avant d'écrire, on est lecteur. Et que tout commence et finit dans des livres. Et que pour moi, Victor Segalen, par exemple, qui probablement sera l'objet de mon prochain livre, qui est un écrivain brestois, breton, qui a été le premier aller sur les traces de Gauguin, Mais c'est Galen sur les traces de Gauguin, moi sur les traces, c'est un peu prétentieux de dire ça, mais je trouve qu'il y a un maillage. C'est, il y a un très beau titre de Daniel Salnave qui disait « La littérature, c'est le don des morts ». Mais je trouve ça très vrai. C'est la générosité du monde, des générations. Et nous n'arrivons pas dans des espaces vides. Nous arrivons dans une mémoire, dans la danse des autres. Et je crois que c'est à nous de faire ce petit pas supplémentaire que tu disais tout à l'heure, pour finalement ne pas être trop seul.
Alors, à propos des romanciers, des romans et même des poètes, votre texte est aussi émaillé des vers de Tristan Corbière, d'ailleurs même, je crois que le départ, hein, l'Incipit commence là-dessus, tiré du recueil des Amours jaunes. Qu'est-ce que représente cet écrivain pour vous ? Pour qu'il soit placé sous le signe de cet écrivain.
J'adore cet écrivain et je Tristan Corbière donc a publié Les Amours jaunes, qui a été considéré comme un des poètes maudits avec Rimbaud, Verlaine, etc. Et quand on lit ses poèmes, on a l'impression d'une chanson de Miossec ou une chanson d'un chanteur contemporain. Tellement c'est. D'ailleurs, quand j'ai publié le livre chez Stock, on m'a dit mais il va falloir qu'on paye des droits. J'ai dit non, mais c'est Tristan Corbière, c'est dans le domaine public, il n'y a pas à payer. C'est-à-dire, Tristan Corbière a cette capacité à scander les choses. Ce sont des vers assez courts, très imagés, un peu comme une chanson de Matelot, où tout porte. C'est ça que j'aime bien dans la poésie, dans la chanson, quand elle est réussie, comme Miossec, c'est que tout porte. C'est comme un vent qui porte, qui pousse. Et je trouve ça dans Tristan Corbière.
Vous écrivez à des moments précis de la journée ? Jean-Luc Cotalem.
J'écris tous les matins, depuis très longtemps maintenant, avec une discipline militaire.
C'est-à-dire début à
7h30, 9h30 tous les jours. Et vous êtes comme un sportif. Après, vous êtes capable d'avancer quand même, malgré tout. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez garder le texte. Vous pouvez avancer 2 ans sur quelque chose et le jeter à la poubelle. Mais là, je crois beaucoup au marquetage, enfin, vous voyez, c'est comme des petites pièces qui s'assemblent les unes après les autres, et il faut surtout pas perdre le fil, et le lendemain matin, hop, vous Gauguin disait, peindre, c'est la logique du corail. C'est-à-dire millimètre par millimètre. Bah, écrire aussi, c'est la logique du corail. Ligne par ligne.
La première phrase est arrivée en premier.
Je me rappelle même plus de la première phrase de mon livre. En tout cas, c'est pas vraiment des phrases, c'est plutôt, ça peut être des mots, mais ça peut être une sonorité ou bon là, c'était Ouessant, donc je voyais l'île de Ouessant, je voyais la tempête, j'entendais Fortune de mer de Miossec.
De Miossec. Ouais.
Et peut-être que c'est ça, cette espèce de rythme presque binaire, quelque chose de lancinant, d'hypnotique. Ouessant, c'est assez hypnotique, en fait, la nuit, quand vous marchez. Puis l'été, c'est très extraordinaire, parce que l'été, ça, la terre a un petit peu chauffé. Quand même, il fait beau, parfois, et vous sentez, il y a une sorte d'émanation de la terre, comme une vibration de la terre. Et ça, vous le sentez vraiment, physiquement, vous mettriez le pied, vous sentiriez une certaine chaleur. Et puis, l'été, c'est aussi le passage des oiseaux, tous ces oiseaux migrateurs qui arrivent du nord et qui descendent et qui font escale à Ouessant. Et les oiseaux sont importants dans mon livre. Il y a un étrange oiseau, entre autres, qui...
Quel étrange oiseau ?
C'est-à-dire, dans le groupe à Ouessant, il y a des ornithologues japonais qui sont là pour attendre une migration. Et ils trouvent finalement un oiseau à moitié mort, qu'ils mettent dans une boîte, même si, en principe, les ornithologues n'attrapent pas vraiment les oiseaux. Et ils décident de l'emmener à la cérémonie druidique, parce qu'il y a une cérémonie druidique dans mon livre.
Ah, mais il y a tout dans ce livre.
Je sais pas s'il y a tout, mais il y a cérémonie druidique. Et au moment où les deux mariés se disent oui, et disent oui aux éléments, parce que les druides, c'est une religion panthéiste, où l'air, l'eau, le vent, le feu sont les matières premières, mes ornithologues japonais libèrent cet oiseau, qui est un oiseau jaune avec un bec violet, je crois, et cet oiseau part dans le soleil. Mais ça se passe mal pour lui ensuite.
La dernière question, Émilie.
Vous avez déménagé 11 fois dans votre vie, étudié dans 14 écoles différentes. Vous avez suivi votre famille et surtout votre père militaire à Tahiti, en Afrique. Vous avez vous-même, comme vous le disiez, sillonné la Polynésie, l'Amérique du Sud. Pourtant, vous n'avez jamais écrit de roman d'aventurier. Et d'ailleurs, on le voit dans votre roman, tout mon personnage appréhende quelque chose, ont peur d'y aller. Qu'est-ce que ça dit du voyageur que vous êtes ?
Mais moi, je suis très craintif, en fait. Je suis pas comme Isabelle qui part seule à... Non, je suis très craintif. Et au contraire, le voyage ne fait que renforcer ses qualités ou ses défauts. Mais c'est vrai que j'ai été vivre plusieurs mois au Paraguay, que j'ai été au pôle sud brièvement, que je suis allé au Pakistan, en Iran, etc. Bon, j'ai été aujourd'hui... Et mon précédent livre, c'était en Corée du Nord, parce que je suis sous un faux prétexte, prétendant que j'étais un agent touristique. Je suis allé faire 1000 km en voiture en Corée du Nord, avec escorté par 3 guides, Kim 1, Kim 2, Kim 3, qui m'ont surveillé après m'avoir confisqué le passeport. Mais si j'avais su à l'époque, j'aurais pas
il valait mieux pas le savoir à l'époque.
Non,
avant de partir.
Si j'avais vraiment su comment ça allait se passer, j'aurais pas fait. Voilà. Mais mais je suis pas. J'ai beaucoup. On en parlait tout à l'heure hors antenne avec Isabelle. Je disais que j'étais très admiratif de gens qui ont d'abord le courage de le faire, et puis surtout qui sont capables d'avoir des réponses physiques, intellectuelles aux difficultés de la vie, aux difficultés de la navigation, aux difficultés de vivre sur une île. Moi, je serais incapable de tout ça. Donc, je suis quand même un peu un rêveur, moi.
C'est-à-dire que c'est pas facile, hein. Il fait pas beau, il y a des grosses vagues, il y a de la glace, il y a du brouillard, enfin tout ce qu'on veut.
Et c'est très émouvant.
Finalement, c'est exactement ça que je pense.
Mais je trouve que c'est presque une métaphore de la vie.
Merci à nos invités, Isabelle Autissier et Jean-Luc Coitelem. Vos romans respectifs, Soudain Seul et Fortune de mer, sont parus aux éditions Stock. Ça, c'était pour aujourd'hui. Mais demain ?
Un mode, c'est un rapport complexe de vitesse et de lenteur dans le corps et aussi dans la pensée qui correspond à ce corps.
Demain, il faudra attendre lundi une émission philosophie et théâtre avec Alain Badiou et Denis Guénoun. La des annonces, Elsa.
C'était le rendez-vous de Laurent Goumard, une émission préparée par Benoît Lagan, Émilie Chaudet, Aïssatou Endoï et Elsa Béranger, Journal de la Culture, Zoé Sfez, Supplément Week-end, Benoît Lagan, à la prise de son, Jacques Hubert et Jean-Guilain Meige, et à la réalisation, Lise Combe.
Il est temps de nous quitter, vous êtes bien sur France Culture. Et tout de suite, je vous laisse avec Denis Podalydès de la Comédie Française. Alors bonne soirée, bon week-end et à lundi.